Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Au Maroc, derrière toute grande décision diplomatique se cache la question du Sahara occidental. Ainsi, le 1er mai, Rabat a rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran, accusé d'avoir livré des armes au Front Polisario par l'intermédiaire du Hezbollah libanais. L'affaire est d'autant plus étonnante que le Front Polisario n'a pas besoin d'être armé pour engager des hostilités militaires contre le Maroc. La décision de reprendre les combats dépend plutôt d'Alger, qui héberge le mouvement. Démenti avec force par l'Iran, le Front Polisario et Alger, l'accusation du Maroc a immédiatement été saluée par l'Arabie Saoudite, qui affirme apporter son soutien au royaume chérifien frère, menacé dans sa sécurité et son intégrité territoriale selon Riyad. La question du Sahara occidental pour le Maroc, c'est le thème d'Orient Hebdo ce dimanche. Pour approfondir le sujet, nous accueillons Khadija Mohsen-Finan. Bonjour.
Bonjour Éric Bataillon.
Spécialiste du Maghreb et des questions méditerranéennes. Vous enseignez à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ainsi qu'à l'Université Ca' Foscari de Venise. Et vous signez dans la revue en ligne Orient 21, à laquelle vous collaborez régulièrement, un article d'analyse sur la question du Sahara occidental. Plus précisément, vous vous demandez ce que cache la décision du Maroc de rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran, en l'accusant de vouloir livrer des armes au Front Polisario. Cette accusation est-elle fondée ?
Non, je pense que cette accusation n'est pas fondée. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on en parle. Et à mon avis, les Iraniens et le Hezbollah ne savent pas exactement où se trouve le Sahara occidental et à quoi correspond, ni ce que sont les guerrieros du Front Polisario. Je pense que effectivement, la diplomatie marocaine a réfléchi et avait la volonté de sortir le pays de son isolement à cause de l'affaire du Sahara occidental. Et je pense que cet isolement, il l'avait à cause de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de remettre en cause justement l'accord signé, l'accord de pêche, en indiquant bien que le Sahara occidental ne faisait pas partie du Maroc. Il y avait aussi d'autres indices qui les gênaient terriblement, notamment le Conseil de sécurité qui était en train de réfléchir à la rédaction du rapport du secrétaire général, du rapport annuel, et d'autres indices qui faisaient que leur stratégie sur le Sahara occidental, les isoler considérablement.
Alors, nous reviendrons sur l'ensemble de ces points que vous développez dans votre article. Alors, la direction du Front Polisario est hébergée en Algérie, qui dément également cette livraison d'armes par l'Iran. Quelle est la position de l'Algérie, précisément, concernant une éventuelle option guerrière au Sahara occidental ?
Je pense que l'Algérie ne veut pas clore ce chapitre en, comme ils disent eux, en offrant le Sahara au Maroc. Je pense que leur volonté d'affaiblir le Maroc en le privant de ce Sahara demeure. Elle demeure entière et elle demeure entière pour les militaires et les hauts gradés des militaires, mais aussi au sein de l'exécutif. Toutefois, l'option guerrière a été écartée depuis très longtemps. Elle a été écartée, elle n'arrange pas Alger. Alger ne veut pas d'une guerre, même si l'Algérie est surarmée aujourd'hui, on le sait très bien. Et d'autant plus que la décision, si vous voulez, militaire, ne peut venir que d'Alger. C'est-à-dire que la direction du Front Polisario ne peut pas reprendre les armes. À mon avis, elle n'est pas entraînée, elle n'a pas les armes suffisantes, elle n'a pas les munitions et la décision est toujours venue d'Alger.
Donc aujourd'hui, plus question de conflits armés ou d'escarmouches sur le terrain ?
Non, je pense que chaque fois que l'un des deux belligérants, c'est-à-dire Front Polisario ou Maroc, parle de reprendre les armes, nous sommes réellement dans la rhétorique.
Mais alors précisément, quelles sont les positions, puisqu'on a quitté le terrain militaire ou de l'affrontement sur le terrain, quelles sont les positions plus largement défendues par chacune des deux parties, le Maroc et le Front Polisario ?
Alors, le Front Polisario est depuis le début pour l'autodétermination, c'est-à-dire un référendum par lequel on consulterait la population pour savoir si elle est pour le rattachement du Sahara occidental au Maroc ou pour son indépendance. Et l'Algérie dit soutenir le Front Polisario pour cette raison, puisqu'elle a elle-même accédé à son indépendance à la faveur d'un référendum d'autodétermination. Bien sûr, il n'en est rien, il y a des enjeux qui sont autres. Le Maroc a beaucoup tergiversé entre l'autodétermination à certaines périodes et l'autonomie. Mais depuis la fin des années 90, le Maroc a écarté définitivement, en tout cas il dit que c'est définitif, l'option d'autodétermination pour conserver celle d'une autonomie sous souveraineté marocaine et depuis 2007 a proposé un plan d'autonomie. Le Maroc a écarté l'option de l'autodétermination parce qu'elle comporte effectivement des aléas et des risques.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI. Khadija Mohsen Finan, ce conflit est donc enlisé, même si au fil du temps, le Maroc a réussi à contrôler à peu près 80% du territoire et aussi l'essentiel des ressources de ce territoire. Pourquoi, dans ces conditions, relancer l'affaire en s'attaquant à l'Iran ?
Alors, d'abord, pourquoi relancer l'affaire ? Il faut relancer l'affaire parce que, comme vous le dites, le conflit est enlisé, il est paralysé, il est bloqué. C'est-à-dire que malgré les stratégies mises en place par Rabat, et notamment un lobbying qui lui coûte très cher, l'affaire n'a pas avancé et nous sommes aujourd'hui devant une situation assez inédite où, au terme de plus de 40 ans de conflit, il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. Donc la situation est bloquée et il y a un élément nouveau qui est venu secouer finalement cette paralysie, c'est le fait que le Front Polisario s'empare de l'option juridique, mène une bataille juridique pour revendiquer ses ressources, ce qu'il appelle ses ressources naturelles. Alors effectivement, depuis 2015, il y a eu un jugement de la Cour de justice de l'Union européenne ne condamnant pas le Maroc mais disant que Sahara occidental et ses ressources n'étaient pas partie intégrante du Maroc et donc n'étaient pas inclus dans l'accord tel qu'il a été conclu en 2012.
Et cette décision de la Cour européenne, c'est une décision qui vient à la suite d'une plainte déposée par le Front Polisario.
Absolument.
Sur ce terrain juridique.
Absolument.
C'est une nouveauté.
Alors, par le Front Polisario, appuyé par des associations et des ONG qui lui viennent en aide et qui vont s'emparer de cet aspect juridique pour faire parler le Polisario, le rendre audible d'abord, le sortir de sa torpeur, de sa timidité, de son oubli, pour venir revendiquer justement ses ressources. Alors les ressources, c'est essentiellement du phosphate, et on a vu un bateau notamment, empli de phosphate de 50 000 tonnes, naviguer au sud de l'Afrique, qui a été effectivement paralysé dans le port Elisabeth, pendant un an quand même, c'est quand même beaucoup.
C'était un bateau affrété par le Maroc, justement,
par le Maroc,
sur des ressources du Sahara occidental.
Du Sahara occidental, le phosphate. Alors c'est valable pour le phosphate, c'est valable aussi pour la pêche, puisque le Sahara occidental a des eaux très poissonneuses, des recherches halieutiques extrêmement considérables.
Oui, voilà, ça c'est un deuxième élément sur lequel le Front Polisario, aidé par des ONG, a pu obtenir un jugement en sa faveur, c'est-à-dire que la question de la pêche est une question qui devient une question internationale.
Elle devient en tout cas centrale dans les relations entre le Maroc et l'Union européenne. Et il y a une remise en cause des accords qui étaient signés et qui étaient signés en 2012 avec un partenaire pour l'Union européenne qui est doté d'un statut avancé, en l'occurrence le Maroc.
Mais alors, sur le terrain, comprennent bien, le Maroc contrôle à peu près 80% du territoire sahraoui. Comment le contrôle-t-il ce territoire précisément ? Qu'a-t-il fait le Maroc ?
Alors, il contrôle d'abord les ressources et la population. Qu'a-t-il fait ? Il a fait beaucoup de choses. Depuis très longtemps, par exemple, les élections locales et nationales sont organisées au Sahara occidental, ce qui est un signe.
Et la population va voter ?
La population va voter. Il le contrôle aussi en ayant brassé la population, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population venue du Maroc qui est venue s'installer et qui est venue bénéficier justement des subventions à l'achat de choses de première nécessité, quoi, d'alimentation ou autre. On leur a donné du travail, on leur a donné un logement. Et on a voulu faire en sorte que l'identité sahraoui, n'existe plus par la sorte. Donc il y a eu un brassage du temps de Hassan II. Donc il y a un contrôle effectivement du territoire, il y a un contrôle des ressources, il y a un contrôle de la population, et la population n'a pas le droit de se dire Sahraoui. On a l'épisode de 2009 en tête avec Aminatou Haider, une Sahraoui qui a refusé de marquer sur sa fiche de police en rentrant à l'aéroport de Laayoune qu'elle allait au Maroc, et en marquant Sahara occidentale. Donc il y a un contrôle qui est vraiment très ferme sur la population qui n'a pas le droit de se déplacer comme elle l'entend, et sur les ressources. Il y a un prolongement de l'administration et notamment du vote de l'administration marocaine, et le Sahara occidental est considéré comme un territoire marocain, pour les Marocains. Lorsque l'ONU a envisagé d'organiser un référendum en 1992, effectivement, il y a eu un bureau des Nations Unies, et la mission, la MINURSO, a organisé un vote. Alors, il y a eu de la part des deux acteurs un grossissement des listes électorales, mais le Maroc a voulu imposer que le drapeau marocain soit planté à côté du drapeau onusien, ce que les Sahraouis ont refusé. Mais il y a mille et une autres manières qui sont chaque année signalées dans le rapport des Nations Unies qui paraît sur le Sahara occidental.
Alors justement, la position des Nations Unies aujourd'hui avec la MINURSO a-t-elle de nouveau un mandat pour stationner sur place ?
Alors, traditionnellement, chaque année en avril, la MINURSO est reconduite pour une année. C'est devenu presque un automatisme. Cette année, sa mission est reconduite de 6 mois et non un an. Alors au début, les observateurs se sont posé la question en se demandant pourquoi. Finalement, il s'avère que c'est une volonté américaine. John Bolton a dit, qui a été lui-même conseiller de James Baker lorsque James Baker était l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, il a considéré que cette mission coûtait cher, qu'il fallait en finir avec cette mission, et il le dit bien dans un document, soit ils arrivent à se mettre à une même table et à négocier, parlant du Front Polisario et du Maroc, sinon, et il laisse entendre que la mission cesserait ses activités.
Quelles sont justement les activités de la mission la MINURSO actuellement ?
Alors, il y avait deux missions essentielles de la MINURSO, c'était l'organisation d'un référendum au Sahara occidental et le maintien de la paix dans ce territoire. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un, et les États-Unis et les Nations Unies aimeraient doter cette mission d'une autre tâche, celle de mettre les deux belligérants à une table de négociation.
Orient Hebdo sur RFI.
Khadija Monenfina, vous avez évoqué les États-Unis. Alors justement, est-ce que derrière cette accusation du Maroc à l'endroit de l'Iran, qui aurait fourni des armes, même si l'Iran ne sait pas trop où se trouve le Sahara occidental, est-ce que derrière, il n'y a pas la volonté d'obtenir de nouveaux soutiens ? Alors, vous l'avez écrit dans votre article, l'Arabie Saoudite, évidemment, et puis les pays du Golfe, mais peut-être aussi derrière les États-Unis.
Absolument, absolument, et c'est une stratégie de la diplomatie marocaine. Chaque fois qu'ils se sentent en faiblesse sur cette question centrale pour eux du Sahara occidental, ils essayent d'avoir de nouveaux alliés. Ils essayent d'avoir de nouveaux alliés et de se positionner autrement au niveau de leur diplomatie. Alors, tout le monde sait qu'ils sont proches, le Maroc est proche des pays du Golfe depuis longtemps, et que en 2011, on leur a même proposé de faire partie de ce conseil de coopération du Golfe. Ça ne s'est pas fait, mais ils ont depuis une alliance stratégique très importante avec ces pays. Mais cette alliance stratégique et cette alliance tout court se fait aussi bien avec les Émirats et l'Arabie que le Qatar. Et ces pays sont de gros investisseurs au Maroc. Le prince Salman aurait signifié au roi du Maroc de se prononcer plus clairement dans cette affaire et dans ces pays du Golfe qui sont divisés entre d'un côté les Émirats et l'Arabie Saoudite qui entendent isoler le Qatar et le Qatar lui-même. Et là, le roi du Maroc, il fait une pirouette par cette décision prise de rompre ses relations avec l'Iran en se positionnant du côté justement de l'Arabie et de l'Iran dans leur conflit avec l'Iran et en ne prenant pas position sur son partenaire qatari, qui est un partenaire qui est quand même très généreux. Donc effectivement, il a choisi d'abandonner, de sacrifier finalement l'Iran, qui est un partenaire qui n'est pas très important pour lui, en inscrivant cette rupture dans une rupture devenue traditionnelle, puisqu'il a déjà rompu ses relations avec l'Iran en 2009.
Et derrière cet appel du pied finalement à l'Arabie Saoudite et aux pays du Golfe, il y a aussi un réalignement sur la politique américaine avec l'idée que les États-Unis pourraient aider le Maroc dans son dossier du Sahara occidental.
Il y a une volonté de se rapprocher de l'administration Trump pour plusieurs raisons, mais il y a aussi cette question du Sahara occidental qui reste centrale. Pour les Marocains, le dénouement de ce conflit ne pourrait venir véritablement que des États-Unis. Ils ne croient pas beaucoup en l'ONU, quel que soit son secrétaire général, et ils pensent qu'une simple décision des États-Unis viendrait clore ce conflit à leur avantage. D'où l'argent déversé à des associations, à des think tanks ou autres par le Maroc pour aller dans ce sens. Ils ont par exemple beaucoup misé sur l'élection de Hillary Clinton. Ça ne s'est pas fait. Bon, ça a surpris tout le monde, c'est vrai. Mais ils essayent de se rapprocher de l'administration Trump et la rupture pour eux des relations avec l'Iran qui pourrait peut-être susciter un mouvement dans le monde arabe, même si ça s'est pas fait, à mon avis ça ne se fera pas, pourrait séduire Donald Trump lui-même. Il y a cette volonté.
Et par ailleurs, il y a cette opposition toujours renouvelée de l'Union européenne au règlement de ce conflit tel que le souhaite le Maroc. Pourquoi cette position jusqu'au boutiste peut-être de l'Union européenne et que peut faire le Maroc ?
L'Union européenne n'est pas tellement jusque boutiste justement, parce qu'il y a une différence entre le jugement. Elle est plutôt embarrassée par ce jugement de la Cour de justice de l'Union européenne dont elle doit tenir compte. Et d'un autre côté, il y a le Conseil et il y a les relations avec les États membres qui conduisent l'Union européenne à ne pas rompre et ne pas avoir cette attitude jusque boutiste. Mais là, le Maroc prend les devants et il lui signifie qu'il peut avoir des partenaires qui sont autres. Il le lui signifie explicitement par justement les propos de son ministre de l'Agriculture et de la Pêche en disant finalement, nous, on peut avoir d'autres partenaires qui sont les États-Unis, la Russie, la Chine, les pays du Golfe ou autres. Donc attention. Et le deuxième élément qui est censé faire peur à l'Union européenne, c'est qu'il contrôle l'immigration qui vient justement de l'Afrique subsaharienne et que à tout moment, ils peuvent ouvrir ou fermer les vannes de cette immigration.
Et on l'a vu récemment où des migrants ont pu rentrer dans Melilla de façon très très facile.
Immédiatement après le discours tenu par le ministre de l'Agriculture, on a retrouvé effectivement des migrants à Melilla qui n'ont pas du tout été inquiétés.
Finalement, un compromis est-il possible aujourd'hui entre le Maroc et le Front Polisario sur cette question du Sahara occidental ?
Un compromis est toujours possible. Pour sortir des conflits, les compromis ont été inimaginables avant d'être trouvés. Donc je pense que c'est une solution, c'est l'unique solution. Il faut aujourd'hui tenir compte du fait que ce conflit conditionne malgré tout toute la région. Il en va de sa sécurité. Il en va de son économie, il en va de ses relations avec ses partenaires et notamment l'Union européenne. Donc nous sommes dans un monde qui est bouleversé et je pense que les deux belligérants doivent en tenir compte. Alors il y en a un qui se dit disposé à négocier, c'est le Front Polisario, et le Maroc qui reste déterminé à ne pas négocier ce qu'il dit une once de son territoire.
Merci Khadija Mohsen Finan, spécialiste du Maghreb et des questions méditerranéennes, enseignante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université Ca' Foscari de Venise. Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr rubrique émission ainsi que sur notre page Facebook. Vous pouvez également la podcaster sur notre application Pure Radio. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. Tout de suite, un nouveau journal.